Voilà, nous allons continuer notre petite promenade dans le livre des juges. Mais auparavant, réponse à deux questions. Mon casier est toujours prêt à recevoir, en recevoir d'autres. Il y a une phrase qui a fait question à la page 31 du syllabus, une phrase un peu emberlificotée. Voilà. La foi est évidemment relation à Dieu, mais elle engage toute la personne, y compris sa relation aux autres. D'accord. Maintenant, il faut justifier dans ce livre que la terre appartient à tout le monde parce qu'elle n'appartient à personne sinon à Dieu et que les hommes sont gestionnaires de la terre. Mais le gros problème, c'est qu'ils ne se prennent pas toujours comme des gestionnaires, mais comme des propriétaires. Et alors, ils se disputent la terre. Et ces luttes qui existent sont des luttes pour la vie, évidemment. Alors, ce qu'on appelle les guerres du Seigneur, mais vous ne trouvez jamais le terme de guerre sainte dans l'Ancien Testament. La guerre sainte, les guerres du Seigneur, c'est justement ces jeux entre les hommes, ces négociations, hein, on sait ce que c'est, ces négociations qui font que finalement on occupe telle ou telle portion du terrain. Plus ou moins fertile, plus ou moins fécond. Alors, il y a une phrase qui dit ceci, « Disputer à ses voisins un bien qui leur appartient, en tout cas qui est considéré comme tel, c'est manifester ce droit inaliénable au sol. » C'est-à-dire que chacun a droit à exister là où il peut mettre la plante de ses pieds. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire une certaine sécurité. Chacun a droit à vivre là où il est. Et il a droit à avoir, il a droit à marcher en tout cas, et à occuper la portion de terrain qui lui est nécessaire pour vivre. Et donc, arriver à une certaine paix. Justement, le livre des juges nous montre la difficulté qu'il y a à vivre ensemble. Tout le problème, c'est là. C'est d'occuper, je dis bien occuper plutôt que posséder, occuper un territoire et là faire en sorte qu'on puisse y vivre ensemble avec des frères, amis ou ennemis et à découvrir un mode de vie ensemble. Tout le problème est donc là. Et en faire une guerre sainte, c'est revendiquer la liberté comme don de Dieu. Parce que la guerre sainte n'est pas du tout une possession du terrain, mais la guerre sainte, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le combat spirituel. C'est-à-dire qu'il faut risquer de temps en temps sa vie dans la discussion, éventuellement dans la lutte, quand il y a une agression, et que l'un des deux est irréductible, ou bien les deux sont irréductibles. Et donc, c'est dire, c'est une sorte de parabole de la liberté qui nous est donnée à chacun et que nous pouvons revendiquer, mais comme don de Dieu. La difficulté, justement, c'est de voir que Dieu est présent dans toutes ces luttes. Même en situant les deux dernières phrases dans leur contexte, je ne parviens pas à les comprendre. Parce que, justement, guerre sainte, le terme, déjà en français et pas dans la Bible, puisqu'il n'y est pas, est un mot ambigu. Il n'y a pas de sainte guerre. Mais la guerre est un risque que nous acceptons. Et accepter ce risque, c'est accepter qu'il y a une valeur plus grande que notre propre vie. Quand on meurt pour la patrie, cela veut dire que la patrie est plus importante que ma propre vie. Et que ça sert à quelque chose d'y mettre ma propre vie. Vous voyez, c'est un peu de cela qu'il s'agit. Parce que ça, on pourrait opposer les deux manières, les deux phrases, mais il ne faut pas les opposer parce que dans la Bible, il y a toujours cette présence de Dieu fondamentale. Nous allons le voir d'ailleurs tout de suite dans la théologie deutéronomiste qui est présente dans ces livres. Ça, c'est autre chose. Alors, une autre question qui se pose, c'est comment se fait-il que ce sont les mères qui donnent un nom à leurs enfants? Ah, c'est très important cela. Les mères donnent le nom à leurs enfants et les pères leur donnent leur situation juridique. La maman, on sait toujours qui elle est, hein, parce qu'on voit hein, l'enfant sortir du sein de la maman. Tandis que le papa, on ne sait pas toujours qui il est. Et donc, la judaïté, c'est-à-dire l'appartenance à Israël, se donne par la mère. Parce que là, on est sûr. Tandis que l'homme, le mari, doit faire, quand l'enfant naît, doit faire une, nous dirions aujourd'hui, une inscription à la mairie ou à la maison communale. À l'époque, il doit faire un acte d'adoption. Le père adopte toujours l'enfant, qu'il soit le sien ou qu'il vienne d'un autre père. Mais il le prend sur ses genoux à la naissance et il dit « Je suis ton père et tu es mon fils ». Et c'est un acte juridique. Tandis que la maman va plus profond que l'acte juridique, parce qu'elle donne le nom, c'est-à-dire la personnalité. Mais elle ne le donne pas à partir d'elle-même. Elle le donne à partir de la circonstance ou de la réalité que marque l'enfant. Si l'enfant marque qu'il est gaucher, on va l'appeler Benjamin, fils de la droite. Et donc, on a 8 jours. Jusqu'à la circoncision, avant la circoncision, on ne donne pas de nom à l'enfant, ou à la petite fille aussi, c'est 8 jours. Mais il faut observer l'enfant ou faire mention d'une circonstance qui fait que l'enfant vient à tel ou tel moment, ou à tel ou tel jour. C'est comme ça que souvent, et même aussi dans d'autres pays, on donne à l'enfant le nom du saint du calendrier. Comme il y a toujours 7 ou 8, il y a un choix possible. Mais ici, voyez, vous avez vu dans le texte que nous avons pris la fois passée, hein, dans la Genèse 29 à 31, hein, que la maman donnait toujours une indication. Regardez, un fils. Et où? Ben. C'est le nom qu'elle donne à son premier. Alors, mais le nom dit toujours précisément une circonstance ou une caractéristique de l'enfant tel qu'il est, tel qu'il sort du sein maternel. Nous appelons ça en français une qualité innée. Alors, évidemment dans la Bible, on approfondit toujours cette réalité comme une perception théologique de la situation ou bien de l'identité de l'enfant. Ainsi, regardez, on appelle Zacharia. Dieu s'est souvenu quand un enfant est un tard venu. On l'a attendu plusieurs années, et maintenant le Seigneur s'est souvenu. Zacharia. Et donc, un tard venu, on doit l'appeler normalement Zacharie. Et c'est ce que vous trouvez dans la naissance de Jean le Baptiste. Hein? On doit l'appeler Zacharie comme son père. Son père était déjà un tard venu. Hein? Maintenant, voilà le fiston qui devient un tard venu. On va l'appeler Zacharie. Non, non. Zacharie, c'est Dieu s'est souvenu. C'est comme si Dieu s'est souvenu que la femme avait un droit à la vie. Tandis qu'on l'appelle Yohanan. Dieu a fait grâce. On n'est plus dans une situation de droit, on est dans une situation de grâce, c'est-à-dire de gratuité absolue. Et alors, on va appeler l'enfant non pas Zacharie, mais Yohanan. Dieu a fait grâce. Anne signifie la grâce, Hanna. Et donc, les noms ont une importance capitale dans la Bible. Et on joue toujours sur les noms. Et des personnes qui portent le même nom à des centaines d'années d'intervalle ont une accointance à cause du nom. Le nom signifiant justement quelque chose de profond de la personne. Et donc, quand vous lisez la Bible, toujours vous demandez, c'est pour ça qu'il y a des notes dans les Bibles, hein, qui vous instruisent sur le sens des noms hébraïques. Revenons, si vous voulez, à notre livre des Juges. Et vous avez déjà perçu que dans le livre des Juges, à travers un petit schéma qui revient, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait comme bon lui semblait. Chacun a sa vérité, parce que ses manières de vivre sont différentes, chacun a sa manière de vivre différente, et il est très difficile de percevoir et surtout de réaliser une certaine unité. Et vous voyez justement que le livre des Juges nous est donné pour exprimer cette hésitation qu'il y a et cette difficulté inhérente à la mise ensemble, à la réalisation de communautés, de réalités qui sont en elles-mêmes disparates. Chacun faisait comme bon lui semblait, chacun cherchait son profit. Et on avait du mal de mettre les choses ensemble, c'est-à-dire de découvrir et de réaliser le bien commun. Et donc c'est 200 ans à peu près qui nous sont donnés entre le livre de Josué, qui donne une perspective, mais qui ne dit pas encore la réalité telle qu'elle est, enfin, telle qu'on la vit sur cette terre, et l'époque de la royauté, il y a du flou. C'est le moment de l'installation, le moment, disons, du stage. On fait un stage sur cette terre avant de découvrir vraiment qui on est. Et dans les annexes que j'ai mis après le dernier cours que j'avais donné, après les aspects théologiques du livre de Josué, vous avez une carte qui vous donne les différentes localisations des tribus, et en même temps, les tribus sont soulignées, en majuscules soulignées, et puis vous avez aussi les noms des différents juges qui sont en majuscules non soulignés. Et vous voyez que dans la colonne de droite où j'ai mis Genèse 29-30, le texte que nous avons vu la fois passée, avec par ordre de naissance les différents enfants de Jacob, c'est-à-dire les différentes tribus venant de points différents, mais ayant déjà certains groupements, certaines accointances ensemble, les tribus du Nord, par exemple, se réunissant à Sichem. Nous avons vu que le chapitre 24e de Josué faisait une grande réunion à Sichem, mais c'est une réunion idéale, elle n'a pas encore été vécue comme cela. C'est déjà dire en germe ce qui deviendra réalité à l'époque de la royauté. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, les quatre premiers enfants de Léa, qui forment un premier groupe, qui sont des tribus du sud. Puis vous avez Dan et Nephtali, qui sont des tribus qui sont nés de Bilha, servante, et donc deux tribus un peu différentes, mais celles-là sont deux tribus du nord. Puis vous avez Gad et Asher, vous avez Bilha, puis Zilpa, encore une servante, c'est-à-dire des mères porteuses chaque fois. Puis vous avez de nouveau Léa, Issachar et Dina, une fille, et d'ailleurs il y a toute une histoire avec Dina. Et puis finalement vous avez les enfants de Rachel, Joseph et Benjamin. Mais il n'y a pas de tribu de Joseph. La tribu de Joseph est scindée entre Ephraïm et Manassé, qui sont les deux enfants de Joseph, hein, qui sont nés en Égypte. Donc vous voyez, ça c'est une manière familiale, généalogique. La généalogie est extrêmement importante parce qu'elle dit le chemin de la vie à travers les hommes, hein, le chemin généalogique qui symbolise une réunion difficile entre un certain nombre de tribus qui sont devenues 12. On a appelé ça le système des 12 tribus d'Israël, qui sont devenues 12, mais seulement à l'époque de la royauté. Alors, une chose importante dans cette histoire des juges, c'est de savoir pourquoi on a mis les choses ensemble. Ben, évidemment, c'est pour montrer qu'à partir de tribus qui, éventuellement, ont quitté l'Égypte, quelques-unes, le même fond, c'est-à-dire les mêmes histoires, c'est-à-dire la même façon de vivre d'une présence divine, s'est petit à petit condensé et à former une unité entre ces différentes tribus venant d'azimuts différents. Il a fallu vivre une diversité et s'acheminer vers une unité, un vivre ensemble commun. Et c'est la mémoire qui travaille. Et il y a des différentes légendes, et chaque tribu a ses propres légendes, et il va falloir assimiler ces légendes les unes aux autres, pratiquement, pour se mettre d'accord sur un même credo. C'est comme ça qu'on a fait dans l'Église aussi, Église d'Orient, Église d'Occident, catholicisme, orthodoxie, et on a essayé de se mettre ensemble et de déclarer un même credo. C'est-à-dire un même Dieu qui nous unit. Dans la Bible, c'est comme ça. C'est Dieu qui fait le peuple. Ce ne sont pas les hommes. C'est Dieu qui fait le peuple à travers de grandes diversités. Rappelez-vous l'histoire de Babel, justement, qui disait que quand les hommes veulent vraiment la pensée unique et le mode unique de vivre, ça foire. Ça foire. Parce que ce n'est pas Dieu que l'on recherche, c'est une image que l'on a de lui, c'est-à-dire l'uniformité, la pensée unique. Et la grosse difficulté, justement, c'est la pensée unique. La pensée unique n'est pas unité, c'est un nivellement. L'unité est une réalité beaucoup plus difficile à faire. Eh bien, c'est ce que dit exactement le livre des juges. Je voudrais quand même, avant de tirer une petite conclusion théologique, je voudrais quand même vous lire un passage important parce que c'est un des plus vieux morceaux de la Bible. Une légende qui est une des plus anciennes. Le début de la Bible, l'Exode et tout cela a été écrit beaucoup plus tard. Mais les tout premiers écrits, ce sont précisément de ces légendes de l'une ou l'autre tribu que l'on s'est répété et qui a évidemment changé de forme en se répétant. C'est au chapitre 5e du livre des juges. C'est intéressant parce que ces 4 et 5 parce qu'une même histoire nous est donnée de deux manières différentes. D'abord, une sorte d'histoire nous est racontée, je dis une sorte de, parce que, évidemment, c'est déjà une histoire romancée, et puis la même histoire nous est donnée en termes poétiques, comme une épopée. Évidemment, cette épopée, c'est un chant, le chant d'une tribu, un chant qui symbolise une recherche de l'unité. Mais une recherche de l'unité se fait souvent contre un certain nombre d'ennemis. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Comment des tribus du Nord sont-elles arrivées à dépasser quelques obstacles? Et puisque le texte nous donne d'abord une histoire romancée, nous voyons que, ceci c'est le petit refrain que vous retrouvez une bonne dizaine de fois dans le livre des Juges, après la mort d'Éhoud, les Israélites recommencèrent à faire ce qui déplaît au Seigneur, et le Seigneur les livra à Yabin, roi de Canaan. Voilà, quand on a des revers, hein, des échecs, eh ben le Seigneur les livra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait ce dont on a envie, ben, le Seigneur n'a plus rien à faire. Il doit se croiser les bras. Autrement dit, le Seigneur nous laisse toujours notre liberté. Il fait avec ce qu'on lui donne. Il ne brise jamais la liberté. Il n'agit pas par effraction. Il agit à travers la volonté des hommes. Nous retrouvons encore ça dans l'Évangile. Et donc, Yabin, roi de Canaan, régnait Hatsor. Hatsor est dans le nord. Et là, on a fait des fouilles, on a trouvé 24 ou 25 strates, c'est-à-dire 24 ou 25 occupations différentes de la ville. C'est d'ailleurs extraordinaire le travail des archéologues à ce sujet. Et il y a un beau petit musée à côté de la ville de Hatsor, enfin des ruines de Hatsor, pour montrer justement hein, la vie telle qu'elle était aux différentes époques, pendant 400 ou 500 ans. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Haroshet Hagoyim. Alors les Israélites poussèrent des gémissements vers le Seigneur, car Yabin avait 900 chars bardés de fer. Ah, voilà. Ces Cananéens, ils étaient déjà dans la situation hein, de l'ère du fer, ils travaillaient le fer, tandis que les Israélites qui étaient arrivés du désert travaillaient péniblement un peu le bronze. Car Yavin avait 900 chars bardés de fer et il avait opprimé durement les Israélites pendant 20 ans. En ce temps-là, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël. Une prophétesse, le premier prophète d'Israël, c'est une prophétesse, elle s'appelle l'abeille. Dvorah, en hébreu, c'est l'abeille. C'est une abeille qui va exciter les gens à prendre conscience de leur liberté. Et du combat qu'il faut livrer pour arriver à cette liberté. Même s'il y a des morts. Et donc Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, Lapidote ce sont les flambeaux, jugeait Israël, elle siégeait sous le palmier. Le juge siège souvent hein, sous un arbre. Le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les Israélites allaient vers elle pour régler leur litige. Elle envoya chercher Barak, Barak veut dire l'éclair, fils d'Abinoam de Kadesh en Nephtali. Voici, lui dit-elle, ce qu'ordonne le Seigneur, Dieu d'Israël. Va, marche vers le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. Donc, mets ensemble différentes tribus pour marcher contre le Yabin, le roi de Canaan, qui est là. Le chef de l'armée de Yabin, j'attirerai vers toi au torrent du Kishon, Sisra, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupeaux, et je le livrerai entre tes mains. Il faut un sacré courage hein, pour aller avec les mains nues ou avec des armes qui n'en valent pas la peine, hein, en face de gens bardés de fer, des chars, des avions, etc. Hein? Barak lui répondit, il tremble dans sa culotte, hein? Barak lui répondit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Car je ne sais pas quel jour l'ange du Seigneur me donnera le succès. Vous voyez, il veut être sûr. C'est toujours hein, le complexe de sécurité que nous avons. L'instinct sécuritaire. Et alors, il y a la bataille. Et apprenant que Barak, fils d'Abinoam, je passe, hein, campé sur le mont Tabor, Sisra convoqua tous ses chars, 900 chars bardés de fer, et toutes les troupes qu'il avait, il les fit venir de Harosheth Hagoyim au torrent du Kishon. Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où le Seigneur a livré Sisra entre tes mains. Et l'intuition féminine qui dit, c'est maintenant qu'il faut aller. Oui, le Seigneur marche devant toi, et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes derrière lui. Le Seigneur frappa de panique Sisra, voyez, on n'a rien à faire. Quand Dieu s'en mêle, les autres sont frappés de panique. Tous ses chars et toute son armée devant Barak. Sisra, descendant de son char, s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harosheth Hagoyim. Toute l'armée de Sisra tomba sous le tranchant de l'épée et pas un homme n'échappa. Voilà comment on écrit l'histoire. Hein, une histoire idéalisée, bien entendu. Alors, Sisra cependant s'enfuit à pied dans la direction de la tente de Yaël. Yaël, ça veut dire Dieu, Yaël et Dieu. Yaël et Dieu. Yaël. Femme de Khéver le Kénite, car la paix régnait entre Yavin, roi de Hatsor, et la maison de Khéver le Kénite. Yaël. Sortant au devant de Sisra, lui dit, « Arrête-toi, mon Seigneur, arrête-toi chez moi, ne crains rien. » Il s'arrêta chez elle sous la tente et elle le recouvrit d'un tapis. Il lui dit, « Donne-moi à boire un peu d'eau, je te prie, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre où était le lait, le fit boire et le recouvrit de nouveau. Le lait, la femme qui donne le lait, qui donne la vie. « Tiens-toi à l'entrée de la tente, lui dit-il encore. » Et si quelqu'un vient, t'interroge et dit, y a-t-il un homme chez toi? Tu répondras non. Mais Yaël, femme de Khéver, prit un piquet de la tente, saisit un marteau dans sa main, et s'approchant de lui doucement, elle lui enfonça dans la tempe le piquet qui se planta en terre. Il dormait profondément, épuisé de fatigue, c'est ainsi qu'il mourut. Bon, voilà une légende que l'on raconte, hein. Et d'ailleurs, les pères de l'Église ont fait de cette Yaël une sorte de Jeanne d'Arc. Là où l'homme Barak avait peur, la femme a pris son courage, qu'elle a reçu du Seigneur, et elle a frappé. Alors, maintenant, l'épopée. C'est après l'épopée, probablement, que ce texte a été raconté. « En ce jour-là, Déborah et Barak, fils d'Abinoam, chantèrent, disant, vous savez qu'après le passage de la mer des roseaux, hein, Myriam saisit le tambourin et chanta. Célébrant le Seigneur, il s'est couvert de gloire, il a jeté à la mer cheval et cavalier. Hein, on connaît. « Puisqu'en Israël, des guerriers ont dénoué leurs chevelures, puisque le peuple s'est offert librement, bénissez le Seigneur. Écoutez, roi, prêtez l'oreille, prince. Moi, pour le Seigneur, moi je chanterai. Je célébrerai le Seigneur, Dieu d'Israël. Le Seigneur, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des campagnes d'Édom, Séir, C'est Ésaü, hein. La terre trembla, les cieux frémirent, les nuées fondirent en eau, les montagnes ruisselèrent devant le Seigneur, le Dieu d'Israël. Pour dire la victoire, il faut célébrer la grandeur du Seigneur. Au jour de Shamgar, fils d'Anat, au jour de Yaël, les routes étaient désertes. Ceux qui s'en allaient par les chemins prenaient des sentiers détournés parce que les routes n'étaient pas sûres. Les villages étaient morts en Israël, bien morts, jusqu'à ton lever, ô Débora, jusqu'à ton lever, mère en Israël. Les champions de Dieu se taisaient. Pour cinq villes, pas un bouclier, pas une lance pour 40 milliers en Israël. C'est-à-dire que les gens ne savaient plus combattre, les gens n'avaient plus de courage. Mon cœur bat pour les chefs d'Israël avec les libres engagés du peuple. Bénissez le Seigneur. Vous qui montez des ânesses blanches assis sur des tapis, et vous qui allez par des chemins, chantez. Aux acclamations des gens en liesse près des abreuvoirs, là on célèbre les bienfaits du Seigneur, les bienfaits de sa maîtrise en Israël. Éveille-toi, Déborah, éveille-toi, clame un chant, courage, debout, Barak, et prends ceux qui t'ont pris, fils d'Abinoam. Alors, Israël est descendu aux portes, le peuple du Seigneur est descendu pour sa cause en héros. Et c'est de là que vient l'image de la guerre sainte. C'est Dieu est présent, non pas à l'extérieur, mais dans le courage que les hommes ont et ce qu'ils veulent bien lâcher pour faire la paix. Lâcher pour faire la paix. On est toujours accroché à toutes sortes de choses. Les princes d'Éphraïm sont dans la vallée. Ton frère Benjamin est parmi les tiens. De Makir, Makir, c'est l'ancienne tribu de Joseph. De Makir sont descendus des chefs, de Zabulon, ceux qui portent le bâton de commandement. Les princes d'Issachar sont avec Déborah, et Nephtali avec Barak dans la vallée s'est lancé sur ses traces. Auprès des ruisseaux de Ruben, on se consulte longuement. Est-ce qu'on va attaquer? Est-ce qu'on va aller avec? Est-ce qu'on va rester en sécurité? Pourquoi es-tu resté dans les enclos à écouter les flûtes au milieu des troupeaux? Auprès des ruisseaux de Ruben, on se consulte longuement. Galaad est resté au-delà du Jourdain. Et Dan, pourquoi vit-il sur des vaisseaux étrangers? Il y en a qui se sont désintéressés, qui n'ont pas voulu entrer dans la ligue. Asher est demeuré au bord de la mer, il habite tranquille dans ses ports. Zabulon est un peuple qui a bravé la mort, ainsi que Nephtali, sur les hauteurs du pays. Les rois sont venus, ils se sont rangés en bataille. Alors les rois de Canaan ont combattu à Tanakh, aux eaux de Megiddo, mais ils n'ont pas ramassé d'argent en butin. Du haut des cieux, les étoiles ont combattu, car quand Dieu combat, c'est toujours avec les puissances de la nature. De leur chemin, elles ont combattu Sisra. Le torrent du Kishon les a balayés, le torrent sacré, le torrent du Kishon, foule mon âme avec vigueur. Les sabots des chevaux ont martelé le sol. Ils galopent ces coursiers. Ils avaient des chars bardés de fer. Tandis qu'Israël n'en avait pas. Maudissez mes roses, dit l'ange du Seigneur. Maudissez ses habitants, car ils ne sont pas venus à l'aide du Seigneur, parmi les héros. Et, apologie du courage et détresse de ceux qui ne portent pas, qui ne portent pas la cause de l'unité entre leurs mains. Béni entre les femmes soit Yaël, la femme de Khéver, le Kénite. Entre les femmes qui habitaient les tentes, béni soit-elle. Il demandait de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe précieuse, elle a offert de la crème. Elle a tendu la main pour saisir le piquet, la droite pour saisir le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisra, elle lui a brisé la tête, elle lui a percé, fracassé la tempe. À ses pieds, elle s'est écroulée. Il est tombé, il s'est couché. à ses pieds, il s'est écroulé, il est tombé, où il s'est écroulé, là il est tombé mort. Ouais, un vieux chant de guerre, hein, on entend ça. Par la fenêtre, elle se penche, elle guette la mère de Sisra à travers le grillage. Ah oui, mais Sisra, il avait une maman, hein, et une maman qui était pleine d'angoisse. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi sont-ils si lents, ces attelages? La plus avisée de ces princesses lui répond, et elle se répète à elle-même, sans doute il recueille, il partage le butin, une jeune fille, deux jeunes filles par guerrier, une étoffe, deux étoffes de couleur pour Sisra, une broderie, deux broderies pour mon cou. Ainsi périssent tous tes ennemis, Seigneur, et ceux qui t'aiment, qu'ils soient comme le soleil quand il se lève dans sa force. Et le pays fut en repos pendant 40 ans. Vous voyez comment on écrit l'histoire. Ici, on écrit l'histoire en épopée. Et c'est une manière, justement, de justifier un certain nombre de choses qui ne sont pas tellement belles, en fait. Mais c'est le chemin des hommes. Et c'est à travers, et c'est avec ce chemin des hommes que Dieu doit travailler et qu'on peut faire l'expérience de sa présence. Mais voyez que quand on lit un texte comme cela, il ne faut pas prendre les choses au premier degré en se disant « ça s'est passé comme ça, comme une belle épopée ». Mais qu'est-ce que ce texte veut dire ? Qu'il y a un courage intérieur qu'il faut essayer de mener jusqu'au bout. Et ce courage intérieur, ce n'est pas la force des hommes, c'est la présence de Dieu dans l'homme. Alors, dans l'annexe 5, j'ai résumé plusieurs pages du reste du texte. Concrètement, je lis, comment les tribus d'Israël vont-elles apprendre à s'entendre et découvrir que l'union fait la force? On voit bien que l'idéologie royale est dans l'air. On prépare justement à découvrir que c'est un roi qu'il faut, pas seulement un juge qui prenne les affaires en main pendant 5, 6, 10, 20 ans, mais un roi qui ait une dynastie qui soit constante et qui symbolise l'unité du peuple. Mais les réticences théologiques à ce projet de royauté, comme les autres nations, sont grandes. N'y aurait-il pas la concurrence avec le Dieu unique? Qui est-ce qui fait l'unité? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que c'est un roi? Ou est-ce que c'est Dieu? Le seul roi d'Israël, c'est Dieu. Et vous voyez le problème théologique qui est sous-jacent. Un pouvoir fort ne suffit pas à faire l'unité et la solidarité. Encore faut-il que le pouvoir devienne un service réel. Si le pouvoir est une domination, elle ne va rien faire. Ce livre des juges présente donc un contraste saisissant entre l'idéal merveilleux imaginé et la pauvreté des réalisations concrètes. La question est de savoir comment découvrir Dieu présent dans nos réalités quotidiennes. Pas si ça allait mieux demain, mais dans nos réalités quotidiennes, compte tenu de tout ce qui s'oppose à la bonne marche des choses. D'où les situations de crise dans le peuple, entre les tribus et même dans les familles. Et c'est ce tableau-là qui nous est donné. On se souvient de Dieu quand ça va mal. Quand ça va bien, c'est toujours nous. Hein. Que faire alors? Et que fait le peuple? Et nous voyons revenir un schéma constant dans ce livre. L'homme laissé à lui-même adore des idoles, c'est-à-dire qu'il poursuit ses envies, qui peuvent être excellentes, mais il les regarde comme des réalités absolues. Au lieu d'être fidèle à l'alliance avec le Dieu unique, et il se retrouve impuissant devant ses ennemis. D'où prise de conscience, recours au Seigneur, puis conversion, prise en charge de la tribu par des juges qui y mettent de l'ordre. Telle est la vision de l'histoire humaine au quotidien, avec rapport aux biens économiques, à l'autre et spécialement à la femme. Dans le livre de Josué, vous n'aviez pratiquement qu'une seule femme, celle qui ouvre la porte, la portière de la terre promise, la prostituée Rahab. Tandis qu'ici, vous en avez quantité. Et vous avez le tableau vraiment qui exprime un idéal, l'idéal de la femme et du couple, et vous en avez d'autres qui sont perverses. Et justement, c'est ce contraste qui dit bien la réalité de tous les jours. Nous allons voir ça tout de suite. Un tel est la vision de l'histoire humaine, et finalement, il y a un rapport à soi. Le combat spirituel, il est à l'intérieur de chacun. Qu'est-ce que c'est que la vraie liberté ? Et l'on prend la mesure de ses responsabilités, où l'on retrouve le sens de sa vie. Et alors, je vous convie à revenir à un petit schéma que vous trouvez à la page 56 du syllabus, qui est très significatif de la manière dont l'historien deutéronomiste écrit l'histoire. Voilà. C'est ce que j'appelle la roue de l'Alliance. Je vais essayer. Vous avez donc la vie quotidienne qui reprend et qui continue. La ligne verticale, la ligne de la présence divine, et la ligne horizontale, qui est la manière dont l'homme réagit. Que fait Dieu ? Il ne peut faire qu'une chose, c'est de donner. Dieu donne. Et l'homme peut recevoir, il donne d'abord la vie. C'est le tout premier don, il donne la vie. Et alors, que fait l'homme ? Parce qu'il y a un rapport, justement, de Dieu à l'homme. Le don, c'est toujours une tentation. On sonne, on frappe à la porte, vous ouvrez, un don, donc une tentation. Une tentation, c'est une interpellation de la liberté. Qu'est-ce que je vais faire avec ce qui m'est donné ? On me donne un bouquet de roses, j'aurais préféré des œillets. Voilà, tentation. Tentation de recevoir ce qui m'est donné, ou bien de ne pas le recevoir ou de le recevoir mal. Devant le don, j'ai une liberté à exercer. Et justement, la manière dont je reçois va me dire comment je réussis les choses ou comment j'échoue. Et donc, si je reçois le don véritablement comme un don, je dis merci. C'est parfait. J'entre dans le chemin du don. J'ai une vie, je suis homme, je suis femme, né dans tel ou tel pays, etc., et toutes ces circonstances. Est-ce que je me reçois comme un cadeau ? Si je me reçois comme un cadeau, tout va bien. Je corresponds à l'Alliance. Mais, malheureusement, c'est pas toujours comme ça que les choses se font. Je vais d'abord dire qu'entre les deux, il y a un carré. Je mets un carré pour dire que c'est à l'intérieur d'une réalité qui est plus ou moins contraignante. Vous voyez, quand je reçois un don, ce don est en quelque sorte une loi. Il m'impose quelque chose, une contrainte. Qu'est-ce que je fais avec cela? Et donc, il y a une loi. La loi, c'est justement l'expression d'un don. La loi nous fait découvrir comment nous sommes construits, en quelque sorte, le mode d'emploi. Et la loi me tente. Tu as reçu de nouveaux souliers, tu ne vas pas aller te promener dans les flaques d'eau, hein? Qu'est-ce que l'enfant va faire? Se promener dans les flaques d'eau. Pour voir. Loi, tentation. Mais ça ne va pas toujours bien. Souvent, je transgresse la loi. Et c'est souvent ce qui se passe. Transgression. Voilà. Et le carré du droit, ceci c'est le droit, là c'est la Torah, qui va me mettre des balises, qui va me faire découvrir que j'échoue, je transgresse la loi. Et à ce moment-là, la loi me rappelle que j'ai échoué, et donc il y a une révélation. La loi va me révéler la révélation du péché. C'est l'élément je transgresse le feu rouge. Voilà, ou bien un carré, ou bien un coup de sifflet de l'agent qui me dit « tu as transgressé ». Une prise de conscience, c'est le don qui vient me retrouver au cœur de ma transgression. Parce que le don reste toujours donné. Mais je découvre que j'ai transgressé. Et il y a dans la Bible une révélation du péché. La culpabilité, je la sens. Tandis que le péché, il doit m'être révélé que Dieu a été atteint par ce qui s'est passé. Révélation du péché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la loi, quand on transgresse, il y a un châtiment. Pour signifier ma transgression. Elle me le dit, mais le châtiment est déjà un retour. C'est déjà une interpellation de l'homme dans sa liberté. Il y a moyen de te relever. Le châtiment dit cela, nous l'appelons une punition, mais non, c'est un symptôme d'une réalité que je ne peux pas rejoindre tout seul. Il faut que j'aie un supplément de force, un supplément de courage. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais avouer mon péché. Aveu. Ou conversion, si vous voulez. Je vais prendre en charge mon péché. C'est-à-dire déjà faire un mouvement de retour. Mais c'est le don de la présence de Dieu qui m'est donné. À travers la défaite, je me rends compte que, et effectivement, je n'avais pas le courage de faire l'unité. Je ne voulais pas la faire. Et je commence à en prendre conscience. Cette conscience, qui s'appelle dans notre jargon théologique, une confession, je confesse que la grâce de Dieu m'est donnée à travers la Torah que j'ai transgressée. Et alors, justement, dans la loi, quand il y a transgression, il y a un châtiment qui est prévu, et ce châtiment, qui est thérapeutique en quelque sorte, demande un sacrifice. Un sacrifice ça veut dire un retour, une reprise en charge de ma vie. Et que fait Dieu à ce moment-là? Il pardonne. Le pardon, c'est le don qui a traversé toute la faiblesse humaine et l'a transformée. Eh bien, c'est le petit schéma que vous retrouvez constamment dans le livre des Juges. Et ce schéma, il est fondamental dans la théologie d'Israël. Vous avez donc ce petit schéma qui est expliqué à la page 56 et 57 du syllabus. Alors, je vous signale, je l'ai pris dans un livre, il y a deux femmes, Madame Amit, qui est israélienne, et il y a une dame qui est théologienne, protestante, Corinne Lanoir, qui a écrit un livre remarquable, Femme fatale, fille rebelle. Hein? C'est l'essentiel de l'angle féminin dans le livre des Juges. C'est quelque chose de très scientifique qui essaye de découvrir justement la théologie sous-jacente, quand le livre a été constitué, à partir de quoi il a été constitué. Et je vous lis justement à la page 5 de l'annexe, parce que je vois que le temps se fait court. Comme l'écrit une spécialiste du livre des Juges, à mi-chemin à la page 5 de l'annexe 5, lire les Juges en considérant que les personnages féminins y représentent une sorte de fil rouge et tracent un ou plusieurs parcours proposant une vision particulière de la mémoire d'Israël dans l'ensemble du livre, constitue une piste qui me semble féconde et que je retiendrai. Les lectures sociologiques, féministes ou déconstructionnistes mettent souvent l'accent sur le fait que chaque récit est aussi la mise en scène d'un conflit. Comment prendre une décision et se définir une identité? Comment choisir un mode de gouvernement et des responsables? Comment tracer les frontières entre générations, entre sexes, entre groupes? Donc c'est une manière de vivre au quotidien, hein, une économie humaine, un vivre ensemble. Ceci ne constitue pas la problématique unique des Juges, mais ce livre pose ces questions de façon singulière et dans un style spécifique dont une des caractéristiques essentielles me semble être l'usage qu'il fait de l'ironie. Et justement, il y a un ton un peu persifleur dans ce livre des Juges. Si vous regardez par exemple toute l'histoire de Gédéon et puis l'histoire de Samson, hein, Samson Shimshon, hein, l'ensoleillé, c'est assez curieux. Et ce sont des tableaux extrêmement divers qui nous sont, mais toujours en contraste. Et si vous regardez encore les finales qui sont généralement regardées comme des additions, des annexes au livre, vous verrez que c'est encore la vie telle que les hommes la mènent avec les essais, les tentatives, les échecs. les choses qui tournent mal. Et pourquoi ça tourne mal? Et vous avez encore, par exemple, pour l'histoire de Samson, encore un petit livre intéressant d'un exégète catholique, Walter Vogels, canadien. Samson, sexe, violence et religion. C'est vraiment la vie des hommes. Dans la première moitié du livre, continue Madame Lanoir, jusqu'à l'histoire de Jephthé et de sa fille, il s'agit de femmes vivantes, demandeuses, qui prennent des initiatives, agissent, et parfois tuent des hommes comme Yaël et la femme à la meule, la femme qui fait descendre sur Abimelech depuis les remparts une meule de moulin et qui le tue. La plupart ont un nom, et l'emblème de ces femmes actives pourrait être la première d'entre elles, Axa, juchée sur son âne et réclamant à son père une dot avec des gages de fertilité. A l'inverse, la deuxième moitié du livre, intéressant pour voir le contraste, met essentiellement en scène des femmes presque toutes anonymes et au destin tragique. Sacrifice, bûcher, pression, viol, enlèvement, l'emblème de ces figures pourrait être la concubine morte hissée sur un âne avant d'être découpée en morceaux par son compagnon. Histoire terrible. Et justement, ce qui est en jeu dans tout cela, ce sont toujours les liens, les relations entre les différentes tribus. Tribu de Juda, tribu d'Éphraïm, par exemple. Surtout, tribu de Juda et Benjamin. Pourquoi ? Ah, pas pour rien. Parce qu'on va vous parler de la royauté avec un essai déviant avec Shaoul, tribu de Benjamin. Et puis David, tribu de David, tribu de Juda. Et donc, on essaie d'amalgamer un certain nombre de choses pour vous faire découvrir qu'il y a un idéal qui travaille, qu'il y a une présence de Dieu qui travaille dans ce peuple qui se cherche. Et, chose étrange, que la Bible hébraïque n'a pas fait, mais qu'a fait la traduction de la Septante, on a placé à la fin du livre des juges la belle histoire, l'idylle de Ruth, la Bethléemite, précisément Bethléem, tribu de Juda, pour voir comment même des étrangers et des étrangères, comme l'était Ruth, des étrangers, peuvent entrer, donc des étrangers, c'est-à-dire des païens, peuvent entrer dans l'alliance avec Dieu. Nous reviendrons là-dessus, si vous voulez bien, la fois prochaine, parce que nous devons faire l'enchaînement entre ce livre des juges et puis le livre de Samuel. Il faut bien aller vite, malheureusement, il faudrait pouvoir lire tous ces livres en détail, mais ce n'est qu'une introduction. Merci et à la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie.